un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le quatrième et dernier portrait des dignitaires nazis après Magda Goebbels, Ribbentrop et Göring. Je vous propose de découvrir Albert Speer. Albert Speer est représenté dans le film Der Untergang, La Chute. Hitler rentre dans une pièce avec un compagnon. Il regarde ce qui aurait dû être la cité idéale, Berlin, surpassant Londres, Rome et Paris. Et ce fameux compagnon, c'est Albert Speer. Qui fut Albert Speer, Fabrice d'Almeida?
Albert Speer, c'est un personnage très important dans l'histoire du Troisième Reich. D'abord parce qu'il représente, dans un certain sens, l'éclipse de la bourgeoisie sous le Troisième Reich. J'utilise cette expression parce que c'est un mot de Joachim Fest. Joachim Fest, qui a été le biographe, l'un des biographes d'Albert Speer, avait cette idée qu'au fond, le Troisième Reich correspondait à l'éclipse de la bourgeoisie allemande, la bourgeoisie entendue hein, comme porteuse des valeurs libérales, des valeurs démocratiques, etc. Et donc Speer, il vient d'un milieu, justement, de bonne famille. Il est lui-même issu d'une famille où il y a déjà des architectes. Il va suivre des études à Karlsruhe et à Munich, donc dans des universités et des établissements prestigieux. Et au fond, il est un peu le bon élève de l'Allemagne des années 1920-1930. Il est né en 1905. Hein. Et donc, il va très tôt nouer des relations avec des personnages du milieu nazi, avec Goebbels. Et c'est lui qui va l'amener à rencontrer Hitler. Et Hitler va vraiment tout de suite avoir le sentiment qu'il a rencontré en quelque sorte l'âme sœur du point de vue de l'esthétique et du point de vue des projets qu'il a. Faut pas oublier que Hitler avait eu le projet d'être peintre quand il était jeune, mais qu'il avait aussi des grands dessins d'architecte. Il s'amusait à dessiner des opéras, il s'amusait à dessiner des palais avec ses amis quand il avait 15-16 ans. Donc il retrouve en Speer quelque chose comme ça, quelque chose comme l'idée qu'il a enfin l'homme avec lequel il va pouvoir réaliser les grands monuments de ses rêves. Et ce plan de Berlin que vous évoquiez, c'est exactement ça. C'est un plan de Berlin dans lequel il y aurait un nouveau palais du peuple, un nouveau Reichstag, avec une coupole qu'on imagine faisant 700 mètres de haut. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'occupation de l'espace, d'avoir un pareil monument, pratiquement une petite montagne au cœur de la ville. Et évidemment, tout devait être colossal, puisque le projet, c'était de faire un grand, un gigantesque Berlin qui puisse surpasser hein, les monuments de Paris, où Hitler, par exemple, vient rendre visite juste après la défaite, au début de l'été 44. Et vous savez, il fait cette visite express de Paris, avec notamment parmi ses compagnons, des gens comme Bricker, des gens comme Speer, et des gens comme Otto Abetz, qui sont au fond les esthètes du Troisième Reich. Donc voilà, Speer, au départ, c'est ça, c'est l'ami de Hitler, c'est l'esthète, celui auquel on va confier des missions de décoration et des missions de construction. C'est lui qui va construire la nouvelle chancellerie du Troisième Reich qui va être inaugurée en 1938. Donc c'est cela, c'est l'architecte de Hitler, mais pas seulement, puisqu'il va occuper d'autres fonctions très importantes au sein du Troisième Reich et notamment être ministre.
Peut-être une parenthèse sur l'architecture. Est-ce qu'il existe un particularisme, Speer? J'entends par là, bon, nous avons eu, nous, le Trocadéro, architecture grandiose. Il y avait un peu le même courant hein, sous Staline. Il existe une patte Albert Speer?
Oui, alors là, vous avez raison à la fois d'évoquer le Trocadéro et puis en même temps cette comparaison avec le stalinisme. C'est qu'il y a une dimension de retour au réalisme qui se manifeste très fortement dans les années 30, dans les états totalitaires. Et en l'occurrence, Speer porte le réalisme à l'allemande. Le Trocadéro, effectivement, c'est le moment, lors de l'exposition universelle internationale, il va construire le pavillon allemand. Et vous vous souvenez hein, de ce pavillon allemand où se dresse un aigle hein, qui est censé être une sorte de rempart, tandis qu'en face, on a le pavillon de l'Union soviétique avec cette femme et cet homme qui portent la faucille et le marteau qui sont totalement projetés vers l'avant et les spectateurs vont rester saisis à cette vue. Hein. Ils auront l'impression vraiment qu'on a là affaire à un rempart allemand qui empêche le déferlement soviétique sur l'Europe. Et cette symbolique, elle avait été pensée par Speer, voulue par Speer, en cohérence avec les objectifs du Troisième Reich. La patte Speer, c'est l'idée que on va reprendre, on va faire une sorte de théâtre néoclassique, mais en y ajoutant ce gigantisme qui devrait être le propre des grandes races, des grands peuples. Et donc, il y a cette espèce, peut-être ce qu'il qualifie le mieux, comme Arnaud Brecker d'ailleurs, c'est cette espèce de mélange de classicisme et en même temps de gigantisme. Et c'est ça qui crée la surprise pour beaucoup de spectateurs, c'est que c'est familier et en même temps c'est tellement disproportionné que ça impressionne, que ça donne vraiment l'impression qu'on est rentré dans une autre dimension esthétique avec le Troisième Reich.
Alors revenons à sa vie et même à sa psychologie, quelles furent ses relations avec Hitler?
Alors on en a beaucoup parlé, pour travailler concrètement on peut dire que c'est d'avant tout un ami. Alors après, évidemment, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur d'éventuelles relations homosexuelles entre les deux hommes. Bon, je crois qu'au fond, c'est pas là le fond de leur intimité qui a déterminé l'intensité de leur relation, mais bien plutôt le projet commun qu'ils partagent. Je crois que c'est quand même là où, au fond, l'histoire de la vie privée est peut-être moins déterminante qu'on pourrait le penser si on avait vraiment envie de se livrer à une petite histoire. Cela dit, ce que signifie le fond de cette rumeur, c'est quand même l'idée que les deux hommes marchent ensemble. Et peut-être, contrairement à ce que laissait entendre Speer à ses juges, il n'est pas contraint. Il est là volontairement, il est là parce qu'il est une sorte de fils spirituel, une sorte de dauphin auquel Hitler fait entièrement confiance. Hitler est son aîné, il a une quinzaine d'années de plus que lui. Mais en fait, il y a entre eux un lien qui est de parrainage et presque d'héritage plus important que même les sentiments qu'ils peuvent avoir. La femme de Speer accompagne d'ailleurs son mari au Berghof, où, rappelons-le, Eva Braun séjourne. Donc, même, on peut penser qu'il y a des couvertures, on peut penser qu'il y a des relations particulières, mais au fond, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est cette confiance et cette intimité entre les deux hommes qui montrent qu'ils vont ensemble et qu'ils avancent ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Raison pour laquelle Speer va connaître, comme tous ceux à qui Hitler accorde sa confiance, une carrière phénoménale au sein du Troisième Reich. C'est-à-dire qu'il faut penser que cet homme, à partir de 1942-1943, est pratiquement a atteint un pouvoir pratiquement équivalent à celui de Göring. C'est-à-dire,
c'est très important. En fait, Hitler n'est pas un simple mécène envers un artiste. Speer est un personnage qui a un rôle politique majeur.
Oui, en cela, on peut le distinguer de celui qui est en fait l'artiste qui suivrait en quelque sorte son mécène, qui est Arnaud Brecker, qui n'occupe pas de fonction active dans le processus de décision du Troisième Reich.
C'est pas Wagner et Louis II de Bavière.
Exactement. C'est pas non plus Richard Strauss et Hitler au moment de la guerre. Non, c'est vraiment là, on a affaire à quelqu'un qui est dans le système de décision. C'est-à-dire qu'il est ministre. D'abord, il va être chargé des grands travaux du Troisième Reich, donc ça va être une première tâche. Ensuite, après la mort de Todt, qui était le patron de toutes les fournitures, de toute la production de guerre, eh bien c'est Speer qui récupère ça. Et donc, à partir de 1942, il joue un rôle de plus en plus considérable dans la production d'armement, dans la production alimentaire, dans la production et la reconstruction des bâtiments détruits, dans la mise en place des grands édifices de défense. On ne le dit pas assez, mais une grande partie de tout ce qui est système de bunkers, etc., etc., s'est passé par des décisions de Speer. Toutes ces grandes, ces gigantesques murailles, en quelque sorte, que les Allemands vont essayer de construire un peu partout en Europe, eh bien, c'est passé par ses bureaux. Donc, il est vraiment au cœur de la politique de défense et au fond, c'était ça dont on avait le plus conscience en 1945-46, au moment du procès de Nuremberg. Ce qui va lui être principalement reproché au moment du procès de Nuremberg, c'est son rapport avec la question du travail forcé. Puisque, étant responsable de la production, il va jouer un rôle considérable dans les demandes et les mobilisations et les réquisitions de main-d'œuvre dans les pays conquis. C'est ce qui fait qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont être déplacées pour répondre à la planification et aux décisions qu'il prend, qu'il prend en cohérence avec la politique de conquête et de guerre de Hitler.
Et également de la politique d'extermination.
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, ça a été un peu la découverte de ces dernières années. Puisque au fond, Speer, en 1946, au moment du procès de Nuremberg, a une position particulière. Il reconnaît les crimes du nazisme. Il reconnaît l'existence de crimes contre l'humanité, veut bien admettre sa participation même, sauf à l'Holocauste. Il dit que ça, non, il n'est pas au courant. Ça, non, il ignorait. Et que les décisions de ce type ont dû être prises par Hitler. Et donc, ça va lui donner un statut particulier par rapport au juge. Et c'est ce qui explique qu'il était condamné à une peine de prison et non pas à la peine capitale. Donc, il faut imaginer cet homme qui va entrer en prison et qui va en sortir en 1966. Pendant qu'il est en prison, il écrit ses mémoires, il écrit ses carnets de prison qu'il arrive à faire sortir clandestinement, ce qui laisse rêveur, hein, à la prison de Spandau. Donc, ça laisse rêveur. Comment est-ce qu'on pouvait le laisser faire cela? Mais enfin bon, donc il y a eu une tolérance vraisemblablement pour que ça dure comme ça et qu'il ait pu sortir tant de pages, tant de volumes. Donc, il sort de prison, il va mettre en ordre ses carnets, il va les publier et en quelque sorte justifier le fait qu'il était ignorant des questions de l'Holocauste, qu'il n'était pas du tout au courant de la politique d'extermination. Or, depuis les années 90, il y a eu une série de travaux et on a vu sortir des actes et des textes dans lesquels il est clair que pour les avoir signés, pour les avoir eus entre les mains, Speer était forcément au courant de la politique d'extermination. L'acte le plus frappant, hein, en fait, ce sont les décisions qu'il prend dans son cabinet d'architecture. Donc, c'est pas son activité de ministre, c'est son activité d'architecte qui nous a permis de retrouver ces documents. Des activités où il dessine et il fait les plans d'extension du camp d'Auschwitz-Birkenau. Or, Birkenau va être le lieu où va se réaliser l'extermination.
Alors, à Nuremberg, il n'est pas condamné, vous venez de le dire, à la peine capitale. Il part en prison, il écrit après 1956. Que se passe-t-il ?
Alors, 66, hein, après sa libération.
Oui, 66, pardon.
Alors, après sa libération...
Il reste 16 ans en prison.
Voilà. Après sa libération, c'est un peu disons un retour à la vie civile. Au départ, il avait escompté reprendre ses activités d'architecte. Mais il se trouve que certains de ses commanditaires, ceux dont il attendait des gros contrats, en fait, certains sont morts, d'autres se sont décommandés. Donc, au fond, l'essentiel de l'activité qu'il va avoir va être une activité médiatique. C'est au fond, c'est peut-être cela hein, qui explique que le mystère ait duré si longtemps et qu'on n'ait pas voulu ou pu enquêter en profondeur sur lui, c'est-à-dire qu'il fait des interviews sur la BBC, qui vont lui valoir une popularité énorme. C'est-à-dire qu'on aura vraiment l'impression, vous savez, c'est un peu comme le repenti. C'est-à-dire, je suis sorti de prison, j'ai été bonifié et je me rencontre aujourd'hui. Donc il a cette capacité-là. Il va, il faut le dire aussi, rencontrer beaucoup d'historiens. On l'a oublié, mais c'est un de ceux qui a rencontré George Lachmann Mosse. Et Mosse, grâce à ses entretiens avec lui, il le remercie d'ailleurs dans plusieurs de ses livres, va construire cette théorie hein, sur la dérive finalement esthétique et nationaliste de l'Allemagne, hein, la nationalisation des masses, ça va être le thème du livre qu'il va publier au milieu des années 70, pour lequel il a interviewé Speer et dans lequel il montre l'héritage symbolique au fond que détient le Troisième Reich, un héritage symbolique au fond qui vient des nationalistes du premier 19e siècle. Donc il y a, après sa sortie de prison, un moment où au fond il construit sa légende et il construit sa figure, disons, de personnage qui se serait trompé. De personnages qui, en quelque sorte, auraient été un peu le jouet de l'histoire, auraient cherché à bien faire, mais n'avaient pas véritablement l'intention de mal faire.
Vous dites qu'il a voulu écrire sa propre histoire. Est-ce qu'il a réussi à écrire sa propre histoire ? Il est très jeune, hein, il n'a que 40 ans, hein, c'est cela, à la fin de la guerre.
Oui, en 1945, en quelque sorte, c'est encore un jeune homme, au regard de bien d'autres. Oui, 40 ans en 1945... Je crois qu'il a réussi dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, en tout cas, une première génération, jusque dans les années 90, va avoir le sentiment que, parmi ses dirigeants, il y avait quelques personnes qui s'étaient trompées, qui s'étaient dévoyées. Et surtout, ça permettait de maintenir l'idée qu'il y avait eu une éclipse de la bourgeoisie libérale. Cette idée de Joachim Fest, je pense qu'elle correspond bien aussi à ce profil de personnage. Il a perdu la raison, en quelque sorte, pendant le Troisième Reich. La bourgeoisie a disparu. Et en fait, elle réapparaît en 1945. Bon, lui, il a fait la prison, il a expié sa faute. Et il ressort comme, en quelque sorte, un ingénieur bourgeois humaniste. Hein, quelqu'un qui a la compréhension pour le libertarisme, en quelque sorte. Compréhension pour les homosexuels, sympathie pour les juifs, compréhension pour le mouvement tiers-mondiste, etc. Donc, il représente un peu une certaine image de l'Allemagne qui se reconstruit généreuse, qui se reconstruit démocrate et qui, en quelque sorte, voudrait oublier son passé dont elle se veut en partie responsable. Et c'est ça qu'il a réussi à jouer, Speer. C'est qu'il a réussi à faire croire qu'il n'avait été que rouage et instrument alors qu'il était en fait un de ceux qui imprimaient la marche au régime. Alors, quand même, ce qu'il faut dire à sa décharge, et peut-être ce qui lui a été tenu compte comme circonstance atténuante, c'est qu'au moment où Hitler décide de faire une politique systématique de terre brûlée en Allemagne, de détruire des entreprises, de détruire des bâtiments, d'anéantir les villes, de supprimer un grand nombre d'ouvrages d'art pour limiter la progression des Alliés et peut-être même pour faire que les Allemands eux-mêmes soient punis de leur défaite, Speer va enrayer une bonne partie de ses ordres et ne va pas les suivre, ce qui manifeste en quelque sorte, sa volonté et son divorce à la fin du régime avec celui qu'il avait porté au sommet.
Eh bien, Fabrice d'Almeida, merci beaucoup.
Merci.
C'était le quatrième portrait des dignitaires nazis. Il y aura d'autres portraits sur d'autres thèmes. Je renvoie nos auditeurs à la médiathèque de Canal Academy donc pour découvrir Magda Goebbels, Ribbentrop et Göring. Merci beaucoup et à très bientôt.